Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Baben Pongo Massimango.
Après un répit de près de deux mois, une nouvelle attaque de drone a été déjouée hier à l'aéroport international de Bamboka à Kisangani. On n'en sait pas plus, sauf que cela a eu lieu alors qu'il y avait du monde. Pas de communication officielle pour l'instant. Ebola en Ituri, les autorités provinciales annoncent de nouvelles mesures dans les zones touchées. Suspension des activités sportives, interdiction de véhémentueurs et de rassemblements de plus de 50 personnes notamment. Martial Kisabiamungu nous donnera des détails à ce sujet depuis Bounia. Lutte contre Ebola, il en est question aussi dans l'invité avec cette préoccupation. Comment assurer une réponse plus efficace aujourd'hui en tirant des leçons des précédentes épidémies au Nord Kivu et en Ituri? Nous recevons pour cela Papi Kasereka, analyste des questions de crise et de conflits dans l'Est de la RDC. Madame, Monsieur, bonjour. Dimanche de frayeur à l'aéroport international de Bamboka à Kisangani. Hier, en début de soirée, le ciel de la capitale de la Tchopo a été le théâtre d'une tentative d'attaque ciblée. De drones armés ont mis le cap sur les installations aéroportuaires avant d'être neutralisés en plein vol par le dispositif de défense des forces armées de la République démocratique du Congo. Jacques Mokonkoli nous en dit plus depuis Kisangani.
Si la riposte des FRDC a permis d'éviter le pire, l'alerte a immédiatement plongé le site dans une panique généralisée. Au moment des faits, rapportent des témoins, l'aérogare affiché complet. Passagers en attente, accompagnateurs et personnel au sol ont dû évacuer les lieux dans la précipitation pour regagner le centre-ville. Conséquence directe de cette double incursion, le vol d'une compagnie aérienne nationale en provenance de Kinshasa a dû être annulé à la dernière minute. Pour l'heure, les autorités provinciales et militaires gardent le mutisme. Aucune communication officielle n'a encore été faite. Cette attaque n'est pas la première du genre. En février et en mars 2026, l'aéroport avait déjà été la cible de ces engins explosifs. À chaque fois, les vecteurs aériens de l'armée régulière avaient fait avorter l'assaut. Une répétition qui repose avec acuité la question de la sécurité de l'espace aérien dans cette partie du pays. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, les gouverneurs de province ont pris vendredi une série de mesures pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue des zones affectées par cette épidémie. Il s'agit entre autres de la suspension immédiate des activités sportives et de l'interdiction des véhémentuaires. Martial Kisabiamungu nous donne d'autres précisions à ce sujet.
Dans cette circulaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Louboin Kanchama, ordonne la suspension immédiate du championnat de l'entente de football de l'Ituri, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, ainsi que l'interdiction des veillées mortuaires sur toute l'étendue des zones de santé de Bounia, Rompara, Mungwalu et Nyakoundé, où sévit l'épidémie d'Ebola. Par ailleurs, tout tenterema devra désormais se faire par des équipes de riposte dans les stricts respects du protocole sanitaire en vigueur. Autre mesure prise par l'autorité provinciale, les transports des cadavres sur des motos, des véhicules privés ou des transports en commun est strictement interdit. Une prérogative réservée aux seules ambulances des équipes de riposte. Enfin, les transferts partiels ou total d'un cadavre d'Ebola d'une entité à une autre est également interdit. Tout en insistant sur le respect des mesures barrières, le gouverneur Louboya en appelle à une prise de conscience collective face à la gravité de la situation. Bounia, Martial Kisabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu, le M23 a suspendu depuis samedi tout mouvement des populations entre le nord et le sud de la province. Les rebelles du M23 indiquent que ce sont des mesures pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Après la fermeture des frontières par le Rwanda et l'Ouganda, cet axe routier restait le tout dernier pour voyager afin de relier les deux bouts de la province du Nord Kivu. Et cela a malgré le mauvais état de cet axe routier, les risques d'embuscade. Les habitants se retrouvent donc dans l'impossibilité de quitter la ville. Le point sur cette situation avec Jean Gandou.
Officiellement, le 1-23 justifie cette fermeture par l'urgence sanitaire. Il faut à tout prix stopper la propagation du virus Ebola. Le trafic des marchandises, lui, reste autorisé, mais sous conditions strictes. Désormais, seuls les chauffeurs et son convoyeur ont le droit de monter à bord des camions de marchandises. Pourtant, entre le nord de la province, sous contrôle gouvernemental, et le sud, occupé par le M23, les mouvements de la population sont toujours intenses. Un habitant note que cette coupure vient frapper aussi le secteur de la finance.
À Goma, vraiment, nous essayons juste de survivre du fait que pour trouver le cash, il faut quitter Goma. Alors, ça ne nous rend pas la vie facile. Nous demandons vraiment aux autorités de pouvoir faire quelque chose.
Les banques de Goma sont fermées depuis le début de la crise en janvier 2025. Pour faire tourner l'économie locale, de nombreux habitants et opérateurs économiques n'avaient qu'une solution, rouler jusqu'à Beni pour y récupérer de l'argent liquide ou traverser la frontière. C'est ce cash qui alimentait ensuite les points de retrait Mobalimani de la ville. Aujourd'hui, ce circuit de survie est coupé. Un analyste local demande aux autorités de Kinshasa et celles de facto qui vivent à Goma de trouver d'urgence les voies d'une riposte sanitaire conjointe. Car, rappelle-t-il, la santé et l'éducation sont apolitiques et doivent passer avant les conflits.
La province du Kasaï oriental qui n'enregistre aucun cas d'Ebola jusque-là, dont les autorités appellent la population à maintenir strictement des mesures d'hygiène. L'appel a été lancé jeudi lors de la réunion du comité provincial des urgences sanitaires présidé par le ministre provincial de la Santé. On écoute le docteur Daniel Kazadi au micro de nos confrères de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu.
Pour l'instant, nous disons à toute la population, qu'elle soit soignante et non soignante, d'être calme. La maladie n'est pas au Kasaï oriental et que les dispositions sont prises pour que cette maladie n'atteigne pas la province du Kasaï oriental. Parmi les mesures, la population elle-même, elle est au centre de ces mesures. C'est notamment les mesures d'hygiène. Et la principale mesure d'hygiène, c'est le lavage de mains. Un lavage régulier de mains, donc avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Et ce lavage doit être régulier. Nous demandons seulement que les personnes soignantes recourent aux différentes mesures de prévention ou de protection individuelle afin de se protéger et de protéger aussi les malades qui sont à leur charge.
Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Guémena, chef-lieu du sud, où Banqui piétine. La société civile locale hausse le ton et met en cause l'entreprise Imo Cercas, chargée de l'exécution de cette infrastructure de base. J'ai en téléphone samedi, l'un des responsables de cette entreprise de construction attribue ce retard à des difficultés financières. Il affirme attendre du gouvernement le paiement de ses factures de travaux préfinancés, déjà à hauteur de 60%. Des détails avec Blaise Ndongala.
À Radio Capi, l'un des responsables de l'entreprise Imo Cercas a reconnu la lenteur des travaux de ses projets de 10 km censés faciliter la circulation des personnes et de leurs biens dans la ville de Guémena. Cependant, il indique que son entreprise traverse des moments difficiles sur le plan financier et attend pour l'instant le paiement de ses factures auprès du ministère des Finances afin d'acheminer ses engins et autres matériels qui se trouvent encore en Kinshasa. Selon le chargé des communications du Mont Cercas, ces engins se trouvent une partie au port de l'Onatra et une autre au port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Sam Malebo assure également qu'une fois ces fonds seraient disponibles, ces matériels arriveront à Guémena et les travaux s'accéléreront avant de déclarer, je cite, ces travaux peuvent être achevés dans quelques mois et je dirais avant la fin de l'année 2026, fin de citation. Radio Capi a tenté en vain d'obtenir les réactions du ministère des Finances dans ces dossiers. Pour rappel, l'entreprise Imo Cercas a déjà réalisé plusieurs infrastructures de base dont les routes construites autour du palais présidentiel à Kolwezi dans la province du Lualaba.
Les érosions rongent plusieurs quartiers et communes de la ville de Kinshasa. C'est le cas notamment du quartier Plateau 1 à Mongafula, près de la paroisse Sainte-Honorine, où des maisons sont ravagées depuis 2022. Les populations environnantes tentent avec des moyens de bord de stopper l'avancée du ravin, avec notamment des sacs de sable. D'autres riverains déversent des ordures sur l'avenue Masirika dans l'espoir de combler l'érosion. Des solutions pas du tout efficaces selon les habitants du quartier Plateau, qui demandent aux autorités provinciales d'intervenir afin d'éradiquer cette érosion. C'est un reportage de Nancy Atambo.
Le quartier Plateau 1 à Mongafula vit une double crise. Des érosions qui avancent et des ordures déversées par un véhicule de l'hôtel de ville. Les habitants expriment leur désolation face à l'inaction. Ils lancent un appel direct aux autorités à tous les niveaux. Revoir la politique de gestion des érosions et agir vite pour protéger des vies en danger.
À ce moment-ci, ce sont les érosions qui nous font vraiment peur.
On a déjà perdu certaines parcelles. Ça continue toujours, ça s'approche maintenant. Au au plus grand nombre de maisons dans les quartiers.
On est venu nous jeter les déchets.
Cette solution-là nous amène encore un autre problème, d'ordre sanitaire, quoi.
Maître Bachala, l'un des premiers habitants du quartier, insiste sur l'urgence d'agir. Il plaide pour une intervention rapide afin d'améliorer la situation et redonner un cadre de vie sain aux familles.
C'est faire le plaidoyer au niveau des autorités.
On ne peut pas trouver solution en cas d'autre problème. Le déchet qu'il jette là, mais il y a des conséquences sur le plan sanitaire.
Pour les habitants de Plateau 1, chaque jour qui passe sans action rapproche un peu plus les quartiers d'une catastrophe. Entre les terres qui s'affaissent et les déchets qui s'accumulent, ils n'attendent plus de promesses, mais des actes concrets pour sauver ce qui peut encore l'être.
Et sur la rivière Lubilanji à Mbujimayi, un phénomène attire depuis la semaine dernière l'attention des ménages. C'est la présence des frétins en grande quantité. Ces petits poissons pêchés à main nue ou à l'aide de petites nasses artisanales sont rapidement devenus un produit phare sur le marché et ambulant avec des fortunes dans plusieurs quartiers de l'est des communes de la Mouya et d'Ibindi. Une aubaine pour les familles, mais aussi un sujet d'intérêt pour les nutritionnistes qui y voient une source accessible de protéines. Esther Dalafina pour le reportage.
Depuis la semaine dernière, un phénomène inhabituel anime les quartiers de l'est de Mbujimayi sur les rives de la Lubilanji. Des sardines, localement appelées Nkoulou, apparaissent en grande quantité. Une manne inattendue qui attire chaque matin des dizaines de femmes venues s'approvisionner. Monique Kanjina est vendeuse de ces sardines.
Nous achetons ça à Bakwa Mugumba.
Le prix défie toute concurrence, 1000 francs congolais le tas. Joseph Kabomu Kalanga affirme que c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les familles frappées par la flambée des prix des poissons.
Les Nkoulou sont bons, même avec les petits billets. On peut préparer quelque chose pour les enfants.
Dans les quartiers périphériques, les recettes se diversifient. Oui. Frétins frits, bouillis, séchés. Selon Georges Sabamalaba, cette créativité culinaire redonne le sourire à de nombreux ménages.
Les Nkoulou là-bas, ça a un bon goût. À les manger avec des légumes, des foufous, c'est très bon aussi.
Mais au-delà de l'aspect économique, Ezekiel Mbaya, coordonnateur du programme national de nutrition Pronanut, salue une source accessible de protéines.
Les petits poissons sont vraiment riches en protéines. C'est un aliment nécessaire pour la consommation.
En attendant, les habitants savourent pleinement cette opportunité venue de la rivière. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et à Kinshasa, les marchés et les rues offrent un véritable spectacle de couleurs et de saveurs en fruits. Mangue, papaye, orange, pastèque, citron, ananas, pamplemousse et bananes garnissent les étals et attirent les passants. Pourtant, derrière cette apparente abondance, les fruits peinent encore à s'imposer dans l'alimentation quotidienne de nombreux Kinois. Entre habitudes culinaires, contraintes économiques et recommandations sanitaires, la consommation reste contrastée. Certains intègrent progressivement le fruit dans leur alimentation, tandis que d'autres les considèrent comme un plaisir occasionnel ou saisonnier. C'est un reportage de Sephora Paca.
À Kinshasa, la consommation de fruits demeure davantage une pratique occasionnelle et souvent saisonnière qu'une véritable habitude alimentaire ancrée dans le quotidien. Plusieurs personnes interrogées reconnaissent ne consommer de fruits que très rarement. Un jeune quinois témoigne.
Je consomme le fruit à compter de doigts comme l'orange et la mandarine. Mais l'ananas et les autres, non. Depuis mon enfance, je ne les ai jamais goûtés et je n'ai jamais eu l'envie d'en manger.
À l'inverse, certaines expériences de vie amènent à une prise de conscience. Une dame rencontrée au marché Gambela explique l'évolution de ses habitudes alimentaires après son hospitalisation.
Au départ, je négligeais les fruits et je préférais boire du jus. Mais après ma maladie, on m'a diagnostiqué une diminution du calcium. Depuis, j'intègre progressivement le fruit dans mon alimentation.
Pour le nutritionniste Credo Maeki, la consommation régulière et variée de fruits est essentielle. Chaque fruit apporte des nutriments spécifiques et complémentaires.
Il faut varier les fruits. Pourquoi ? Parce que chaque fruit apporte des bienfaits différents. La banane apporte de l'énergie. L'orange apporte de la vitamine C. La papaye aide à la digestion et la pastèque hydrate les corps.
Malgré certaines difficultés d'accès ou d'approvisionnement, les spécialistes insistent sur la nécessité d'intégrer le fruit dans l'alimentation quotidienne afin de préserver la santé et prévenir de nombreuses maladies.
Parlons de cette mobilisation pour la paix et le développement en République démocratique du Congo. Le parti politique RCD-KML, basé à Beni, appelle la population congolaise à s'unir à l'occasion de la célébration de son 27e anniversaire. Ses responsables estiment que le pays a traversé de périodes difficiles sur le plan sécuritaire, politique et socio-économique et qu'il est temps à présent de se mobiliser pour restaurer la paix et relancer le développement. Maître Deogracias Nyamuisi Muvingi, acteur politique de ce parti, en parle au micro de Marc Maroufimbo.
Vous savez, quand le pays a été divisé depuis longtemps, l'honorable Antipas Mbusa Nyamuisi avait joué un grand rôle de réunir ces pays, tout en prenant contact, bien sûr, avec d'autres acteurs politiques, chose qui a donné résultat, naissance aux élections dont aujourd'hui nous sommes fiers, de 2006, de 2011, de 2018, même de 2023. Vous savez, quand un enfant a 27 ans, ce n'est plus un enfant. Il a maintenant une vision claire et il a une nouvelle énergie. Il a des objectifs dont il doit accomplir. Pour nous aussi, nous avons des objectifs. Celui d'abord de ramener la paix dans ce pays. C'est notre combat ultime. Là, il faut le savoir. On fera tout pour que la paix revienne dans ce pays. On est prêt à tout abandonner, mais que la paix revienne d'abord. On a perdu beaucoup de membres dont j'irai hommage ici, mais pour nous, cela n'est pas une faiblesse, c'est un autre espoir qui nous met une grande détermination dans la tête pour que nous puissions continuer dans ces grands combats. Les résultats, ils sont nombreux et nous voulons qu'ils soient encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Pour le moment, ce qui est très nécessaire, c'est d'abord nous focalisons sur la paix que nous voulons recouvrir.
Actualité internationale.
La compagnie aérienne Royal Air Maroc annonce la suspension provisoire de plusieurs lignes internationales reliant le Maroc à l'Afrique centrale et à plusieurs villes européennes, conséquence directe de la forte hausse du prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Dans un communiqué relayé par l'agence officielle MAP, la compagnie explique être contrainte d'adapter temporairement son réseau afin de faire face à l'augmentation brutale de ses coûts d'exploitation. La compagnie assure toutefois qu'il ne s'agit pas d'une réduction structurelle de son activité, mais d'un ajustement destiné à éviter l'exploitation de lignes devenues déficitaires. Les liaisons concernées touchent principalement l'Afrique centrale et plusieurs axes moyens courriers européens au départ de Casablanca. RAM suspend notamment ses vols vers Bangui, Brazzaville, Kinshasa, Douala, Yaoundé et Libreville.
L'invité.
La maladie à virus Ebola refait surface en RDC dans un contexte toujours marqué par l'insécurité dans l'est du pays. Cette situation relance les défis de la riposte entre urgence sanitaire, contraintes sécuritaires et nécessité de renforcer la mobilisation communautaire. Alors comment assurer une réponse plus efficace aujourd'hui en tirant les leçons des précédentes épidémies au Nord Kivu et en Ituri? Pour en parler, nous recevons Papi Kasirika, analyste des questions de crise et de conflit dans l'est de la RDC. Il s'entretient ici avec Martial Papi Mukeba.
Papi Kasirika, bonjour.
Bonjour, Martial.
Comment analysez-vous les défis de la riposte contre Ebola sur le terrain?
J'ai identifié trois défis. Les défis en lien avec l'insécurité dans la zone, parce que Ebola est dans une zone d'insécurité, particulièrement le Nord Kivu et l'Ituri est connu pour les problèmes d'insécurité. Nous avons aussi les défis en lien avec l'état d'attente pour les échantillons qui doivent être pris en charge. Et aussi, il y a les défis en lien avec la mobilisation des moyens nécessaires pour les équipes de la riposte, parce que la riposte se fait avec l'argent. Au-delà des défis, je pense qu'il est aussi essentiel de réfléchir sur des solutions palliatives face à ces défis-là, notamment en lien avec l'insécurité. Je pense que les épidémies passées, notamment la 10e, la 11e épidémie, nous ont donné assez d'expériences significatives et des compétences nécessaires dans la zone, en suivi des contacts, en investigation, dans les systèmes d'alerte précoce à base communautaire, mais aussi qui connaissent même les circuits de la prise en charge médicale, si SMA, si le protocole est défini. Par rapport avec l'insécurité, il est important que les équipes de la réponse se focalisent, s'appuient sur des compétences locales. Ça peut permettre à ce que nous puissions pallier à ces défis. Ça permettra aussi de renforcer l'engagement communautaire, la confiance pour ce qui concerne l'état d'attente pour obtenir le résultat. Parce que pour l'instant, les examens doivent être acheminés à Kinshasa. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il est important que l'équipe de coordination de la riposte puisse capitaliser les expériences des épidémies passées en essayant, par exemple, de déployer, de décentraliser rapidement les laboratoires mobiles pour que les examens ne prennent pas beaucoup de temps et ceci aura comme impact la réduction des tensions au sein des communautés.
Quelles leçons concrètes les équipes des ripostes et les communautés peuvent-elles tirer des précédentes épidémies d'Ebola au Nord Kivu et à Ituri?
La surveillance à base communautaire, les relais communautaires, des gens qui pouvaient surveiller, qui détectaient les cas et qui les signalaient à temps, ceci a permis en fait que les communautés vainquent l'épidémie. Parce que si les gens au sein de la communauté peuvent être en mesure au niveau des centres de santé de détecter les premiers signes, de les analyser, et d'informer rapidement les équipes de la riposte. Ceci permettra donc aux équipes de la riposte d'intervenir à temps. Et donc, l'engagement communautaire est crucial. Et ceci a été grâce au système d'alerte précoce et réponse rapide à base communautaire. Donc, c'est l'une des grandes leçons que nous pouvons déjà capitaliser. Parce que si nous savons en face de nous des communautés qui vont continuer à dire « cette maladie n'existe pas, Ebola, c'est une affaire de copes d'argent », nous savons ce que ça donne. C'est que le nombre de morts a tendance à s'augmenter. S'il y a la désinformation, souvent dans les contextes ici, il y a toujours des politiques qui tirent la ficelle là-dessus. On ne peut pas faire la politique politicienne si des questions de santé publique. Cette mentalité-là ou cette attitude ou cette façon de faire, de propager des fausses informations, a fait à ce que l'ancienne épidémie, on a dénombré plus de 2000 morts. Il ne faut pas que ça se répète. On a la possibilité de contrôler et gérer cette épidémie avec méthode.
Selon vous, quels éléments de ces anciennes ripostes ont les mieux fonctionné et devraient être renforcés aujourd'hui dans la lutte contre Ebola?
La riposte précédente a décentralisé pratiquement la gestion des laboratoires. On a déployé des laboratoires mobiles à Beni, à Butembo. Ceci fait en sorte que les gens ne pouvaient que patienter pour obtenir les résultats 2 heures maximum. Ils avaient les résultats. Lorsque les communautés savent que dans 2 heures nous aurons résultats, ils n'ont pas donc intérêt à s'énerver ou ils ne peuvent pas attendre 5 heures, 4 heures, 10 heures pour aller enterrer leur corps. Ils ont les résultats rapidement et les bonnes décisions en matière de prévention et de contrôle des infections peuvent être prises. Les gens savaient par exemple si le corps est positif, on peut faire l'enterrement digne et sécurisé. Si le corps du suspect est positif, on peut l'acheminer vers les centres de traitement rapidement parce que plus le temps traîne, plus il y a risque de contamination, plus il y a risque de fuite. Les gens peuvent fuir. Donc, c'est très important de capitaliser ces leçons-là, de décentraliser la gestion des laboratoires, mais aussi de travailler avec les communautés, notamment sur des questions en lien avec la détection précoce des cas et d'alerte des équipes de la riposte. Parce que lorsque les communautés s'engagent, il est clair que les épidémies sont toujours vaincues.
Comment améliorer la collaboration entre les équipes des ripostes et les communautés locales en fait de renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain?
Si les équipes des ripostes travaillent avec les communautés, les impliquent dès le début, impliquent les leaders, les responsables étatiques, tout le monde met la main dans la pâte, il est possible de construire la confiance. Et si la confiance est là, les communautés vont s'impliquer. Et si les communautés s'impliquent réellement, c'est les communautés qui mettent fin en réalité aux épidémies. Il faut que les communautés s'engagent. L'engagement communautaire, je pense, est au cœur du succès dans la gestion de cette nouvelle épidémie.
Papi Kasereka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Papi Kasereka, analyste des questions de crise et des conflits dans l'Est de la RDC. Fin de ce journal préparé par Jules Mister Bilanda, mis en onde par Dudu Nyangasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée.